Thomas Hardy. Le maire de Casterbridge. Chapitre 29. Cependant, Lucetta se hâtait, comme l'avait dit Elisabeth, sur la route de Port Brady. On pourrait s'étonner qu'elle eût choisi pour sa promenade de l'après-midi la route même par laquelle une voiture l'avait ramenée 3 heures plus tôt à Casterbridge, si l'on devait jamais tenir aucun fait pour étrange dans un enchaînement de phénomènes où l'on sait que chacun a sa cause déterminante. On était au samedi, jour de gros marché, et Farfrae avait pour une fois déserté sa stalle dans le coin réservé aux marchands. Mais on savait qu'il allait rentrer le soir, pour le dimanche, comme on disait à Casterbridge. Lucetta avait atteint l'extrémité des rangées d'arbres qui bordaient au sortir de Casterbridge la route de Port Brady, comme les autres voies. Ce point était situé à 1 mile de la ville. La jeune femme s'arrêta. Elle se trouvait entre 2 pentes douces, dans un vallonnement d'où la route, fidèle au tracé de la voie romaine, filait à perte de vue, tout droit comme une chaîne d'arpenteurs, jusqu'à la crête la plus lointaine. Il n'y avait plus ni haies ni arbres dans la perspective, et la route faisait sur les champs de chaume l'effet d'un galon sur une étoffe souple. Il n'y avait en vue comme unique bâtiment qu'une grange située tout près de la jeune femme. Elle fouilla des yeux la route amincie par la distance, sans y voir rien paraître, pas le plus petit point. Elle soupira un mot « Donald » et se retourna vers la ville. La route de ce côté n'était plus déserte, et elle vit s'approcher une promeneuse solitaire, c'était Elizabeth Jane. Malgré sa solitude, Lucetta parut un peu vexée. Le visage d'Elizabeth, au contraire, eut du plus loin qu'elle reconnut son amie, une expression de tendresse. Puis, quand elle fut arrivée à sa portée, « Je me suis tout à coup décidée à venir à votre rencontre, » fit-elle en souriant. La réponse de la jeune femme fut arrêtée sur ses lèvres par une diversion inattendue. À sa droite, un chemin de traverse débouchait au point précis où elle se trouvait sur la grand-route, et sur ce chemin, un taureau marchait d'un air sournois vers Lucetta et vers Elisabeth, qui avait le dos tourné et ne voyait pas l'animal. Pendant les derniers mois de l'année, les bestiaux faisaient la fortune et la terreur des familles de Casterbridge et de la région, où l'on pratiquait l'élevage avec un succès patriarcal. C'est par vastes troupeaux qu'à cette saison on poussait les bêtes à la ville pour les faire vendre à la criée ou qu'on les ramenait aux champs. Et mieux que rien n'aurait pu le faire, les allées et venues des animaux encornés faisaient fuir femmes et enfants vers des postes de refuge. Laissées à elles-mêmes, les bêtes se seraient sans doute assez paisiblement comportées. Mais la tradition de Casterbridge voulait que pour mener un troupeau, gestes sauvages, cris hideux et attitudes grotesques fussent indispensables. On agitait des bâtons, on excitait les chiens errants et l'on faisait en somme tout ce qu'il fallait pour rendre furieux les animaux farouches et terrifier les plus paisibles. Rien n'était commun pour un habitant de la ville comme de trouver, au sortir de sa salle à manger, son vestibule ou son corridor bondé d'enfants et de bonnes, de vieilles femmes et de pensionnaires, qui s'excusaient en disant « c'est un taureau que l'on mène au marché ». Lucetta et Elisabeth regardaient avec appréhension l'animal qui se dirigeait obliquement vers elles. C'était une énorme bête, d'un beau brun profond sous les plaques de boue qui souillaient pour l'instant ses flancs écumants. Elle avait de lourdes cornes, aux pointes boutonnées de cuivre, et des naseaux pareils à la double embouchure du tunnel sous la Tamise que l'on voyait jadis dans les joujoux d'enfants. Dans son mufle passait un fort anneau de bronze, aussi inamoviblement soudé que le collier des reins de Girth. À l'anneau s'attachait un bâton de frêne d'1 mètre environ que le taureau faisait voler comme un fléau en secouant la tête. C'est seulement à la vue de ce bâton ballant que les deux femmes commencèrent à prendre peur. Il prouvait que le taureau était une bête déjà vieille, trop sauvage pour être menée en troupeau et qui avait dû s'échapper. Le bâton servait au bouvier à la maîtriser en maintenant ses cornes à distance respectueuse. Elles cherchèrent autour d'elles une cachette ou un abri, et s'avisèrent de la grange toute proche. Tant qu'elles avaient tenu les yeux fixés sur le taureau, il avait montré quelque hésitation, mais à peine eurent-elles tourné le dos pour courir vers la grange qu'il redressa la tête et parut décidé à les terrifier. Cette attitude nouvelle fit éperdument fuir les deux femmes et le taureau se mit à les charger délibérément. La grange était bâtie derrière une mare verte et bourbeuse. Ses portes étaient fermées, à l'exception d'un ventail placé en face des jeunes femmes et maintenu entrebâillé par un pieu incliné. C'est par là qu'elles entrèrent. L'intérieur de la grange avait été vidé par une récente tournée de battage, sauf une des extrémités où s'entassait une masse de trèfles séchés. « C'est là-dessus qu'il faut grimper, fit Elizabeth Jane, en embrassant la situation d'un coup d'œil. Mais elles n'avaient pas encore atteint le tas lorsqu'elles entendirent le taureau bondir dans la mare. Une seconde plus tard, il faisait irruption dans la grange, en renversant le pieu au passage, la lourde porte bâtie derrière son dos, et il se trouva emprisonné avec les deux femmes. » La stupide bête les aperçut et courut vers l'extrémité de la grange où elle cherchait un refuge. Elles firent une volte si adroite que l'animal vint buter contre la paroi quand ses deux victimes avaient presque atteint le mur opposé. Avant que sa masse lui eût permis de se retourner pour reprendre la chasse, elles avaient à nouveau changé de direction. La poursuite continuait ainsi. Le souffle chaud des naseaux de la bête passait comme un sirocco sur les deux femmes qui ne pouvaient trouver une seconde pour ouvrir la porte. On ne peut dire ce qui serait arrivé si la situation s'était prolongée, mais tout à coup le vacarme de la porte ouverte attira l'attention du taureau, et un homme parut. Il courut vers l'animal, saisit le bâton de frêne et tordit le cou comme s'il avait voulu l'arracher. La secousse fut si brutale que le large cou parut avoir perdu sa rigidité. Il pendait, à demi paralysé, et du sang coulait par les naseaux. L'invention de l'anneau était trop subtile pour la force brute et la bête était matée. Le demi-jour révélait la carrure puissante d'un homme solide. Il conduisit le taureau à la porte et la lumière éclaira le visage d'Enchard. Il attacha la bête au dehors et revint au secours de Lucetta, car il n'avait pas vu Elizabeth, qui venait de grimper sur le tas de foin. Lucetta était en proie à une crise de nerfs. Enchard la prit dans ses bras pour l'emporter au grand air. « Vous m'avez sauvée !» s'écria-t-elle, dès qu'elle put parler. « C'est un prêté pour un rendu, » répondit-il tendrement. « Vous m'aviez sauvée autrefois. »«
Comment se fait-il que ce fût vous ?» demanda-t-elle, sans faire attention à sa réponse.
« J'étais venue au-devant de vous. Depuis 2 ou 3 jours, je voulais vous dire quelque chose, mais vous étiez partie, et je n'avais pu vous parler. Nous pourrions peut-être causer maintenant. »«
Oh non ! Où est Elizabeth ?
Me voici !» cria gaiement la jeune fille, qui, sans attendre l'échelle, se laissa glisser sur le foin jusqu'au sol. Enchard soutenant Lucetta d'un côté et Elizabeth de l'autre, ils suivirent doucement la route montante. Arrivés au sommet de la côte, ils s'engageaient dans la descente lorsque Lucetta, maintenant calmée, se souvint qu'elle avait laissé tomber son manchon dans la grange.
« Je vais aller le chercher, » proposa Elizabeth Jane. « Cela ne m'ennuie pas du tout, et je ne suis pas fatiguée comme vous. »
Et elle courut à la grange en laissant les deux autres poursuivre leur route. Elle n'eut aucune peine à trouver le manchon, article de toilette qui n'était pas de dimension médiocre à l'époque. En sortant de la grange, elle resta un instant devant le taureau, que son mufle saignant rendait maintenant un peu pitoyable et qui avait sans doute voulu faire une farce, plutôt que préméditer un meurtre. Enchard l'avait immobilisé, en serrant contre le gond de la porte le bâton qu'il avait maintenu avec un piquet. Elizabeth reprenait son chemin, après un instant de contemplation silencieuse, lorsqu'elle vit arriver de la campagne un cabriolet vert et noir, conduit par Farfrae. La venue du jeune homme expliquait la présence de Lucetta. Il vit Elizabeth, arrêta son cheval, et fut mis rapidement au courant de l'aventure. En apprenant le danger couru par Lucetta, il fit montre d'une agitation dont l'intensité et la nature étaient chez lui choses toutes nouvelles pour Elizabeth. Ses réflexions l'absorbaient si bien qu'il garda à peine assez de présence d'esprit pour aider la jeune fille à monter près de lui. « Elle est partie avec M. Enchard, dites-vous » demanda-t-il enfin. « Oui, il l'a reconduit chez elle, et ils doivent être presque arrivés déjà. »«
Vous êtes sûre qu'elle aura la force de rentrer ?»
Elizabeth en était certaine. « Et c'est votre beau-père qui l'a sauvée ?»«
Absolument. »
Farfrae modéra l'allure de son cheval, et Elizabeth comprit ses raisons. Il se disait que mieux valait ne pas gêner les deux autres à ce moment précis. Enchard venait de sauver Lucetta, et il eût été aussi peu généreux qu'imprudent, de la part de Farfrae, de provoquer chez la jeune femme une explosion de tendresse trop manifeste à son égard. Le sujet de la conversation fut vite épuisé, et Elizabeth ressentait un certain embarras à se trouver ainsi à côté de son ancien amoureux quand ils aperçurent la silhouette des deux promeneurs à l'entrée de la ville. Lucetta se retournait fréquemment, mais Farfrae ne fouettait pas sa bête.
Lorsque la voiture atteignit la ceinture de la ville, Henchard et sa compagne avaient disparu. Farfrae laissa sur son désir nettement exprimé descendre la jeune fille et mena son cheval à l'écurie derrière son logis. Il gagna la maison par le jardin et trouva son domicile sans dessus-dessous. Des caisses s'empilaient sur le palier et la bibliothèque était en 3 morceaux. Il ne manifesta pourtant aucune surprise et se contenta de demander à la maîtresse de la maison qui présidait à ce remue-ménage « Quand ferez-vous porter tout cela ?»« Guère avant 8 heures, je le crains, monsieur. Voyez-vous, nous n'avons été prévenus que ce matin de votre départ, sans quoi nous aurions été plus avancés. » « très bien, » fit gaiement Farfrae. « 8 heures, cela me conviendra parfaitement, si vous n'arrivez pas plus tard. Maintenant, ne restez pas ici à bavarder, ou vous ne serez pas prêts avant minuit. » Et en disant ces mots, il quittait la maison pour remonter la rue. Henchard et Lucetta poursuivaient pendant ce temps un entretien tout différent. Après qu'Elisabeth fut partie à la recherche du manchon, le marchand de blé ouvrit franchement son cœur et serra sous son bras une main que Lucetta aurait bien voulu reprendre. « Chère Lucetta, fit-il, j'ai eu un très gros désir de vous revoir depuis 2 ou 3 jours, depuis notre dernière rencontre. J'ai songé à la façon dont je vous ai arraché votre promesse. Vous m'avez dit « si j'étais un homme, je n'insisterais pas ». Ces paroles m'ont cinglé, mais j'ai senti qu'elles comportaient une part de vérité. Je ne veux pas vous rendre malheureuse, et je ne pourrais rien faire de pis pour cela que de vous obliger à m'épouser maintenant. C'est trop évident. Je consens donc à une durée illimitée de fiançailles, et nous ne songerons plus au mariage avant 1 an ou 2. Mais, ne pourrais-je faire autre chose pour vous ? Balbutia Lucetta. Je vous suis si reconnaissante, vous venez de me sauver la vie. Et le souci que vous manifestez de ma personne me fait l'effet de charbons ardents amassés sur ma tête. Je suis riche maintenant. Certainement, je pourrais reconnaître votre bonté de façon pratique. » Henchard restait songeur. Il ne s'était évidemment pas attendu à une telle proposition. « Vous pourriez faire quelque chose pour moi, en effet, Lucetta. Mais pas tout à fait comme vous l'entendez. De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, avec un renouveau d'appréhension. « Il faut que je vous confie un secret, pour vous demander votre aide. Vous avez peut-être su que je n'ai pas eu de chance cette année. » J'ai fait ce que je n'avais pas fait encore, j'ai spéculé trop hardiment et j'ai perdu. C'est cela qui m'a mis dans la gêne. Et vous voudriez que je vous avance de l'argent ? Non, non ! S'écria Henchard, tout prêt à la colère. Je ne suis pas homme à vivre aux dépens d'une femme, quand bien même elle serait aussi près que vous l'êtes de devenir mon épouse. Non, Lucetta, voici ce que vous pourriez faire, et ce qui pourrait me sauver. Mon principal créancier est Grower, et c'est lui, lui seul, qui pourrait me couler. Un crédit de 15 jours de sa part me permettrait de me tirer d'affaire. Ce crédit, il serait facile de l'obtenir. Vous n'auriez qu'à lui faire savoir que nous sommes fiancés, et devons nous marier sans cérémonie dans la quinzaine. Non, écoutez-moi, vous ne savez pas ce que je veux dire. Arrangeons-nous pour qu'il croie à notre union prochaine. Cela n'influera en rien sur la durée de nos fiançailles. Personne en dehors de lui n'a besoin de rien savoir. Vous pourriez venir avec moi chez Monsieur Grower et me laisser vous parler devant lui, comme si nous devions nous marier bientôt. Nous le prierons de garder le secret. Avec une telle certitude, il attendra volontiers. Je pourrai me libérer envers lui à la fin de la quinzaine, et je lui dirai tranquillement alors que notre mariage est renvoyé à 1 an ou 2. Personne ne saura dans la ville comment vous m'êtes venu en aide. Voilà le moyen de m'être utile, puisque vous en avez le désir. » On était alors à la chute du jour, à ces minutes qui précèdent immédiatement le crépuscule, et Henchard ne put saisir tout d'abord sur les traits de Lucetta l'effet de sa proposition. « S'il y avait un autre moyen, » commença-t-elle, et la sécheresse de ses lèvres semblait passer dans sa voix. « Mais c'est si peu de choses, » s'écria Henchard, avec un accent de douloureux reproche, « bien moins que vous ne m'offriez, un simple début de réalisation de votre récente promesse. J'aurais bien dit moi-même la chose à Grower, mais il ne voudrait pas me croire. Ce n'est pas que je ne veuille pas, c'est parce que... « Je ne puis absolument pas le faire, » avoua la jeune femme, avec une détresse croissante. « C'est impatientant !» s'écria Henchard. « Il n'y aurait de quoi me pousser à exiger l'accomplissement de votre promesse. »« Je ne puis pas, » insista-t-elle, avec désespoir. « Comment ? Quand je viens à l'instant de vous relever de votre parole et de vous donner tout le temps voulu ? C'est parce qu'il a été témoin... »« Témoin de quoi ? Il faut que je vous dise, ne m'accablez pas. » « Eh bien, j'écoute. Le témoin de mon mariage, c'était Monsieur Grower. »«
De votre mariage ?»«
Oui, avec Monsieur Farfrae. Oh, Michel, je suis déjà sa femme. Nous nous sommes mariés cette semaine à Port Brady. Il y a des raisons qui nous empêchaient de le faire ici. Monsieur Grower a été témoin parce qu'il s'est trouvé à Port Brady à ce moment-là. » Henchard restait frappé de stupeur. Lucetta fut si alarmée de son silence qu'elle lui offrit en balbutiant de lui prêter la somme nécessaire pour franchir la quinzaine fatale. « Vous avez épousé Farfrae, » fit-il enfin. « Mon Dieu, épouser cet homme, quand vous m'aviez promis de m'épouser, moi !»« Je vais vous expliquer, » fit-elle, à voix tremblante et avec des larmes dans les yeux. « Mais ne soyez pas cruel. Je l'aimais tant et j'avais si mal à la pensée que vous puissiez lui parler du passé. Et puis, après vous avoir fait ma promesse, j'ai entendu dire que vous aviez vendu votre première femme dans une foire, comme un cheval ou une vache. Comment aurais-je pu tenir ma parole en apprenant cela ? Je ne voulais plus me risquer entre vos mains, et c'eût été m'abaisser que de prendre votre nom après un tel scandale. Mais je savais aussi que Donald serait perdu pour moi si je ne l'épousais pas tout de suite. Vous auriez pu mettre à exécution vos menaces et lui révéler nos relations passées, si vous aviez cru, en agissant ainsi, trouver une chance de me garder pour vous. Mais vous ne le ferez plus maintenant, Michel, puisqu'il est trop tard pour nous séparer. » Le son des cloches de Saint-Pierre lancées à toute volée avait frappé leurs oreilles pendant que Lucetta parlait, et l'on entendait maintenant battre dans les rues le rythme vigoureux de l'orphéon municipal, renommé pour son généreux usage de la grosse caisse. « Alors, c'est sans doute à cause de votre mariage qu'on fait tout ce tapage, » demanda Henchard. « Oui, je crois qu'il en a fait part, à moins que ce ne soit Monsieur Grower. Puis-je vous quitter maintenant ? Mon... il a été retenu aujourd'hui à Port Brady et m'a envoyé ici quelques heures d'avance. » « Alors, c'est la vie de sa femme que j'ai sauvée cet après-midi ? Oui, et il vous en sera toujours reconnaissant. Bien obligé. Oh, femme perfide !» éclata Henchard. « Vous m'aviez promis !»« Oui, oui, mais c'était sous l'effet d'une menace, et je ne connaissais pas tout votre passé. J'ai bien envie de vous punir comme vous le méritez. Un mot à ce beau mari tout neuf de votre intrigue avec moi, et votre précieux bonheur tomberait en poussière. Michel, ayez pitié de moi, soyez généreux !» « Vous ne méritez pas de pitié. On pouvait avoir pitié de vous auparavant, mais c'est fini maintenant. Je vous aiderai à payer vos dettes. Acceptez l'aumône de la femme de Farfrae, moi. Ne restez pas avec moi. Je me laisserai entraîner à des paroles regrettables. Rentrez chez vous. » Lucetta disparut sous les arbres de l'allée du Midi, au moment où la fanfare débouchait au coin de la promenade, en éveillant partout les échos destinés à célébrer son bonheur. Mais la jeune femme n'écoutait rien. Elle suivit rapidement une ruelle déserte et arriva chez elle sans éveiller l'attention.